Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciate, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois de nouveau Michel Baglin. Bonjour Michel.
Bonjour.
Qui était venu nous parler de Chemin d'encre, c'était début février de cette année. Et là, qui revient nous présenter son nouveau livre, un livre policier intitulé La balade de l'escargot aux éditions Pascal Gallaudet. Mais on en parle dans quelques instants. Comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Pour vous dire que ce soir, à la librairie Études Mirail, qui se situe 5 allée Antonio Machado à Toulouse, hein, à l'université du Mirail, une présentation, une dédicace de l'ouvrage 150 ans de transport public à Toulouse par Robert Marconis, publié aux éditions Priva. Il y aura aussi une conversation débat avec l'auteur, avec également le journaliste Jacques Rochefort et Jean-Claude Flamand de la mission Agrico-Biosciences et président de la commission développement au Grand Toulouse. Donc c'est un voyage passionnant au cœur des transports en commun de Toulouse. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est ce soir. Ensuite, dimanche 30 mai, de 14h à 16h, au stand de la librairie de la Renaissance à Pêche-Beaunieu, dans le cadre de la fête de l'humanité, rencontre avec Maxime, entre autres, hein, bien sûr, il y aura d'autres écrivains, hein, mais je cite celui-ci précisément, Maxime Vivas, que vous connaissez, et avec son dernier livre, Victor Hugo à La Havane, qu'il était venu d'ailleurs nous présenter au mois d'avril dernier. Et puis, il y aura aussi son fils Frédéric, qui vient de publié chez Actes Sud, un superbe traité de gastronomie médiévale. C'est original comme thème, je trouve, gastronomie médiévale. Qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque, hein? Bonne question. Donc, à découvrir, c'est ce dimanche 30 mai à Pêche-Beaunieu, dans le cadre de la fête de l'humanité. Donc, voilà, une belle journée en perspective. Ensuite, vendredi 4 juin, c'est vendredi prochain, Impression plurielle proposée par l'Institut Platon vous invite à son rendez-vous mensuel sur le thème autour du corps. Alors le corps c'est nous, le corps c'est l'autre, on l'aime, il nous dérange, on tourne autour. Du jardin d'Éden au jardin secret, on le cache, on l'expose, on le représente. Alors sculpture, peinture, littérature, vous venez partager donc et échanger autour de ce thème en apportant ce qui vous a plu, ce qui vous a ému, ce qui vous a touché. Alors ça commence à 19h avec le vernissage de l'exposition de peinture et sculpture de l'artiste Gérard Lartigue. Et puis ensuite, à partir de 20h, discussion et échange autour du corps, justement. Alors, c'est la dernière avant le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est vendredi prochain, 4 juin. Je vous donne l'adresse. C'est 3 rue Roque-Morel à Toulouse, bus 14 ou métro Patte-d'Oie. Le téléphone pour tout renseignement, 05 61 42 17 33. Ou sur internet www.institut-platon.com. Et puis je terminerai cette petite page d'infos pour vous dire, c'est un petit peu en avance, je vous le redirai, mais je vous le dis déjà, pour que vous le notiez dans vos tablettes. Vendredi 11 et samedi 12 juin, à Rabastens, l'association La Presse à Réaction organise deux journées thématiques sur la Révolution espagnole, la guerre d'Espagne et l'exil des Républicains, en hommage aux oubliés de l'histoire. Alors le programme, on va citer, donc vendredi 11 juin, il y a une exposition « L'exil vu de l'intérieur » du photographe Aguayo et Galerie Associative le 5. Le soir à 20h, il y a une projection débat du documentaire Il nous faut regarder en présence du réalisateur François Boutonnet, voilà, au cinéma de la Halle à Rabastens. Et puis ensuite, il y a un repas tapas et des chants révolutionnaires espagnols avec la chorale La Canaille du Midi. Le samedi 12 juin, eh bien, c'est dans la cour de la mairie. L'entrée est libre et gratuite, buvette et stand de livres, hein, voilà. Et le soir, 19h, une exposition sur la guerre d'Espagne. À 20h, une conférence dédicace avec Progresso Marin, mm-hmm. voilà, autour de son livre Exil. Tout à fait. Et puis 21h, une lecture publique de Campo française de Max Aube en partenariat avec les éditions Les Fondeurs de Briques. Et puis ça se termine à 22h avec un concert de Paco Ruiz, Rumbas et Sevillanas, accompagné de ses danseuses flamencas. Voilà, voilà. Donc pour tout renseignement et pour les réservations pour le repas, 05 63 57 32 98, 05 63 57 32 98, mais je vous le redirai en temps et en heure.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, la page d'info étant refermée, nous allons passer alors à mon invité, donc Michel Baglin, pour ceux au cas où qui n'auraient pas écouté notre émission de février dernier sur Chemin d'encre. Donc vous êtes né à Nogent-sur-Marne. Voilà.
En 1950.
Bon, on va tout savoir. Toulousain d'adoption depuis donc très longtemps, hein, 62.
Ah oui. Oui, oui.
Voilà.
Je suis toulousain parce que bon, je suis arrivé ici, j'avais 12 ans, et j'ai fait mes études ici, j'ai bossé ici. Enfin, bon,
oui, voilà, votre vie est ici. Alors journaliste, hein, à la retraite maintenant, mais journaliste à la Dépêche du Midi.
Oui.
Voilà. Et vous êtes aussi membre du jury international du prix Max-Paul Fouché.
Oui.
Voilà.
Depuis pas mal d'années. Oui, j'avais été lauréat du prix il y a plus de 20 ans maintenant.
Avec un recueil de poésie.
Oui, voilà. Voilà. Max-Paul Fouché en 88 avec Les Mains Nues qui était paru à l'âge d'homme. Et puis voilà, quelques années après, on m'a proposé d'intégrer le jury international, ce qui m'a,
oh bah c'est
ce qui m'a fait très plaisir. Et j'y suis depuis
très intéressant
depuis
aussi.
Pas mal d'années. Mmh. Hein. Et oui, c'est très intéressant. Mmh. Parce
on découvre
que,
des...
On découvre les manuscrits, on découvre des écritures très diverses. Et puis bon, on est en même temps avec des écrivains, moi il y en a beaucoup, sont devenus des amis, des écrivains sympas et divers aussi, puisque le jury est international.
Et oui,
ça va de Claude Beausoleil, il y a Vahe Godel qui est suisse, Claude Beausoleil qui est canadien, Jean Métellus, haïtien, enfin j'en oublie là, j'en passe.
Oui, mais, oui, bien sûr.
Voilà, donc, Guy Goffet qui est belge, pardon, et bien d'autres.
Et puis vous êtes, sur Internet, on peut donc lire la revue Texture.
Voilà, alors ça c'est pas tout à fait nouveau puisque c'est un peu plus d'un an, mais dans les années 80, j'avais monté une revue papier qui a duré 10 ans, une revue qui était plus particulièrement dédiée à la poésie. J'avais l'intention de la relancer quand j'aurai du temps. Donc l'année dernière, je me suis décidé, mais plutôt que de la relancer sous forme imprimée, j'ai préféré la ressusciter sur la toile, parce que d'une part c'est cumulatif, c'est-à-dire que toutes les critiques que je mets, tout ce que j'apporte, tout ce que j'y mets, est toujours disponible.
Dire ça, c'est épuisé,
voilà.
On ne peut plus le trouver.
D'autre part, on touche beaucoup plus de monde puisque j'arrive à avoir à peu près 1000 visiteurs par jour en moyenne.
Ah oui.
Ce qui est quand même pas
mal. Oui, oui.
C'est les chiffres, les statistiques de l'hébergeur. Et puis j'ai des collaborateurs, donc j'ai Bernard Mazot qui me fait pas mal de critiques, puisque c'est un espace critique essentiellement, hein. Voilà. Critique
de livres,
entretien, portraits, etc. Donc j'ai Bernard Mazot, j'ai Max Allot, j'ai Georges Catalot, et puis également Abdelkader Djemaï qui me fait une chronique sur les résidents, sur les auteurs, sur les traces des auteurs. Voilà, enfin donc, et puis d'autres personnes qui occasionnellement font également des critiques de livres. Donc ben voilà, c'est un site qui me prend pas mal de temps, mais je crois qu'il est...
Oui, très bien fait, moi j'aime beaucoup littérature en ligne, ben voilà, vous êtes adapté aussi quelque part à la technologie actuelle.
Oui, ça me posait pas vraiment de problème dans la mesure où dans mon travail de journaliste, je pratiquais.
Oui, tout à fait.
Mais bon, il y avait quand même... Là, il y a des nouveautés pour moi par rapport à une revue littéraire. Bon, je peux intégrer, par exemple, de la musique, des chansons, ce que j'ai fait avec des auteurs comme Bruno Ruiz.
Oui, tout à fait.
Voilà, ou Philippe Berthaud, ou d'autres. Bon, ça, c'est un plus de la toile. Alors, évidemment, c'est appréciable, enfin, il me semble.
On peut peut-être citer l'adresse.
Oui, alors, c'est revue-texture.fr.
Voilà, revue-texture.fr, c'est tout simple, et puis il y a plein de choses dedans, voilà. C'est très intéressant.
Il y a 110 auteurs, des dossiers sur 110 auteurs, ouais. Plus des textes, plus d'autres choses, bien sûr.
Oui, puis ça donne des idées de lecture,
critique.
J'aime beaucoup. Alors, votre biblio, Michel, beaucoup de choses, hein, des genres différents, hein, romans, nouvelles, poésie, essais, récits, on ne va pas tous les reciter, mais voilà, il y a beaucoup de choses.
Il y a plus d'une vingtaine de titres, oui.
Et dans les romans, on peut citer quand même, parce que bon, comme celui-ci, La balade de l'escargot aux éditions Pascal Gallaudet, c'est un livre policier.
Ouais,
donc
polar,
on peut peut-être citer les
noir,
trois...
Un
roman noir, voilà. On peut peut-être citer les trois romans policiers que vous avez écrits précédemment. Il y a eu Ligne de fuite en 1989.
Oui.
Ensuite, il y a Un sang d'encre en 2001.
Oui.
Et puis, c'est le troisième, La balade de l'escargot.
Voilà.
Donc, on va en parler tout de suite. Donc, c'est un livre, comme je disais, policier, qui se en six parties, hein, six belles parties bien délimitées, qui montent en suspense au fil de la lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé le suspense. Hein. On peut pas lâcher le livre en se disant, on continue demain, on a envie d'en savoir plus. De suite. Et donc, ça se passe dans une ville, mais pour ceux qui connaissent la ville rose, ils reconnaîtront, Toulouse.
Oui, c'est Toulouse.
Mais elle n'est pas nommée.
Non, je ne l'ai pas nommée parce que je tenais à garder quelques libertés par rapport à la géographie, à la topologie de la ville. Mais bon, c'est évident que c'est
on reconnaît les Toulouse, lieux, oui. On reconnaît bien les lieux. Et puis, il y a des lieux sympathiques, hein, on y parle de squat, hein. Ça c'est peut-être moins sympathique, hein, dans le quartier, le quartier chaud de Toulouse,
ouais.
Hein, le quartier des Bayards, quartier chaud l'ancien, quartier chaud de Toulouse.
Les choses ont changé.
Oui, là aussi. Et puis il y a le bistrot de Marinette. Alors, moi j'ai beaucoup aimé le bistrot de Marinette, on va en parler dans quelques instants, mais c'est un lieu, on se dit... Oh tiens, j'aimerais bien aller faire un tour dans ce bistrot. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est le fruit de l'imagination de l'auteur? Alors, Michel, est-ce qu'il existe ce bistrot?
Il a existé, j'ai connu au port de l'embouchure, mais il y a bien longtemps.
Il s'appelait le bistrot de Marinette,
Non, ça, par contre, le nom...
Ça, c'est votre imagination, voilà.
Mais à l'époque, le port de l'embouchure, la rocade n'était pas encore faite, donc le périphérique, quoi. Donc, il y avait une guinguette, d'ailleurs, sur le bord de l'embouchure, de l'autre côté à Midonnier, et il y avait un petit bistrot, là, devant l'écluse, entre le canal de Brienne et le canal du Midi. Et bon, il m'arrivait d'y aller. Alors, c'était pas... Après, le reste, c'est une recomposition à partir de plusieurs bistrots. Les pépés qui mangent le pain frotté d'ail, j'ai connu ça, mais c'était pas dans ce bistrot. Je l'ai vu ailleurs.
Ah, d'accord. Donc, vous avez mélangé un peu des souvenirs.
Voilà, j'ai fait une espèce de synthèse pour créer...
Un patchwork de souvenirs.
Voilà. Ce lieu, parce que bon, ce lieu, dans le roman, il fonctionne un peu comme un havre.
Une bulle.
Où les gens, vont se recharger les batteries, quoi, puisqu'ils sont tous en dérive et quelque part en souffrance, ils viennent là et ce lieu est chaleureux, il a quelque chose qui leur permet de se ressourcer.
Puis bon, Marinette y est pour beaucoup aussi,
Marinette,
c'est un sacré
c'est
personnage.
L'hôtesse,
c'est un personnage attachant, hein, Marinette. Il y en a d'autres, des personnages attachants. Il y a Floréal, moi j'aime beaucoup le prénom.
Ouais.
Floréal, ce prénom. C'est, vous avez connu quelqu'un qui s'appelait
fils de républicain espagnol, bien sûr.
Ouais, non, c'est très. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, Floréal, c'est un personnage attachant. Sandrine, bien sûr. Il y a aussi Mamadou, Rachid.
Tous les squatteurs,
Voilà.
On peut peut-être dire pourquoi il y a les squatteurs.
Je vais lire la quatrième de couleur. J'y arrivais. Et puis, bon, il y a aussi des personnages un peu moins attachants, comme par exemple les skins, hein, les skinheads du squat aussi, Et puis bien sûr des gens corrompus et véreux qui sont nettement moins sympathiques aussi. Alors la quatrième de couverture pour donner une idée à nos auditeurs. Architecte rangé, Clément finit par se déconnecter et se marginaliser à la suite de déboires conjugaux et surtout du viol de sa fille, recluse depuis dans son mutisme. De plus, une vieille affaire de corruption passive le poursuit sans qu'il en ait vraiment conscience. Livré à une sorte d'errance au volant de son camping-car, qui lui sert de coquille d'escargot, il s'enfonce de déambulation mélancolique en balade punitive dans les quartiers interlopes de la ville. À la rencontre de la violence, mais aussi de personnages comme Floréal, Mamadou, Rachid, Sandrine, qui lui révèlent le peu de sens de sa propre histoire et la fragilité de ses défenses. Remonte à la surface le scandale étouffé, dans lequel sont impliqués des notables véreux, bien moins fréquentables que la pègre des quartiers. Renouant un à un les fils de l'écheveau, l'escargot devra aussi descendre dans cet égout pour connaître la vérité, dans ces zones d'ombre où se cache la sourde misère du désespoir, mais aussi la tendresse et l'amour de ceux qui ont un jour perdu leur carapace et s'en bricolent comme ils le peuvent de très précaires. Je trouve que la quatrième de couverture est tout à fait... c'est le but d'une quatrième de couverture, vous allez me dire. Mais des fois, elles sont moins réussies, c'est ça que je veux dire. Et celle-ci est vraiment... ça n'en dit pas trop, ça en dit un peu. Et ça, je veux dire, ça retrace bien, c'est bien le reflet de la sensation et de l'impression du livre.
La thématique, elle est abordée déjà dans le fait que les personnages perdent leur carapace, parce que, l'escargot, pourquoi l'escargot ? C'est le jeune Clément, donc le roman.
Le personnage principal, c'est Clément Faure, l'architecte.
C'est un architecte, et on le découvre au moment où il sort de l'hôpital, où sa fille donc a fait une tentative de suicide.
Voilà, elle est psychiatrique, c'est Anna, sa fille.
Et donc il vient de lui rendre visite, il est assez effondré, d'autant que il est en séparation avec sa femme, il vient de découvrir qu'elle le trompe avec son associé.
Voilà, femme Elisabeth et Diego, son associé, c'est un choc, c'est sûr.
Et il décide de ne pas... Alors, il avait pris un vieux camping-car dont il disposait pour aller à l'hôpital voir sa fille, parce que sa femme avait la voiture. Et au lieu de rentrer chez lui, il décide de rester ce soir-là dans son camping-car.
Oui, qui est un peu aménagé, il faut quand même le dire, c'est un petit camping-car sympa.
Oui, enfin vieux quand même.
Pas vieux quand même, mais un petit peu aménagé quand même.
Et là-dedans, c'est pour une nuit, puis deux nuits, puis il s'installe là. Il quitte sa peau, c'est sa mue. Il quitte son appartement, mais en même temps, il est en train de muer, puisqu'il tourne la page, il tourne beaucoup de pages. Même.
Oui, même dans son travail, puisque le fait que sa femme ait une liaison avec son associé, forcément, il ne veut plus travailler avec son associé. Donc, il quitte la maison.
Donc, c'est à ce moment-là qu'on le prend, et là, il retourne, il ne sait pas trop pourquoi, un peu par hasard, et en fait, un peu parce que sa part obscure le guide, quelque part, il retourne sur des lieux...
Où il y a eu un accident il y a 8 ans, un effondrement d'immeuble.
Pour lequel il avait une part de responsabilité, mais ça, il l'occulte depuis des années. Ça fait partie de sa vie, des mensonges de sa vie.
Passée.
Et là, il rôde un peu dans ce coin-là, et puis à un moment donné, il est agressé par un jeune.
Et qui lui vole sa sacoche.
Il est... Fort mari, et donc il recherche ce jeune, il finit par le retrouver et involontairement il le blesse.
À la jambe.
Et à partir de là, il se sent responsable du gamin qu'il a blessé. Et donc il le ramène dans son squat, puisque c'est un gars qui vit dans un squat.
Oui, il habite dans un squat, Floréal.
Et puis il va finalement, quelque part, le prendre un peu en charge, mais sans que ça se... alors que c'est très conflictuel entre eux, évidemment.
Ça part d'une agression, après il blesse le jeune garçon. C'est pas des relations
très... c'est des modes de vie qui se confrontent aussi.
L'âge aussi, ils n'ont pas du tout le même âge.
À partir de là, il va se créer... De multiples rebondissements, et puis des liens, et puis
d'autres personnages qui vont apparaître.
D'autres personnages dans le squat.
Parce qu'il y a Mamadou, il y a Rachid aussi.
Oui, qui sont, je crois, des personnages qui ont un peu d'épaisseur, je l'espère. Qui sont aussi là pour donner d'autres voies, d'autres pistes sur les façons d'envisager la vie. Donc Clément, quelque part, poursuit sa mue. Et quelque part aussi, il renaît à lui-même. Il renaît à quelque chose qu'il avait perdu, un sens de la vie peut-être tout bêtement, de l'existence, et puis des choses essentielles, et il laisse tomber l'accessoire.
Et grâce finalement à tous ces personnages,
hein, voilà, Floréal, ces personnages,
Sandrine, voilà. Même alors, Marinette, hein,
oui,
comme
oui,
on
bien
en parlait
sûr.
Tout à l'heure.
Alors Marinette, bon, c'est bon, évidemment, il va dans sa dérive. Clément rencontre des personnages assez peu fréquentables.
Aussi.
Donc ceux qui sont liés à ce promoteur immobilier qui l'a embarqué dans cette affaire qui s'est soldée par un accident, par un effondrement d'immeuble et donc par des morts. Enfin bref, je ne rentre pas trop dans les détails. Parce
non.
Que sinon,
ah ben non, non.
Mais bon, il rencontre aussi Sandrine. Donc là, c'est le côté plutôt positif et quelque
côté
part...
Côté un peu sentimental, entre
guillemets.
Côté sentimental.
Mais tous les personnages, en fait... Bon, il va aussi découvrir pourquoi sa fille...
Et oui.
Et c'est la grande
énigme au
départ.
Pourquoi elle fait une tentative
de
suicide, voilà, pourquoi elle se mure dans un mutisme,
voilà,
pourquoi elle a
son
ce mal-être.
Mais pourquoi... Parce qu'il y a un policier aussi dedans qui lui reproche, sans que ça soit explicite, mais il le considère comme responsable
Du mal-être de sa fille.
Voilà, du mal-être de sa fille. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Et donc, bon, petit à petit, ça va s'éclaircir.
Oui, ça va s'éclaircir.
Voilà,
donc,
donc,
il y a un retour dans le passé, hein, finalement.
Oui, 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 oui.
Son présent.
Disons que la part obscure, chacun a sa part obscure, parce que Floréal aussi a la sienne.
Oui.
Hein, son père.
Tout à fait, l'histoire avec son père.
Il y a beaucoup d'histoires de paternité.
Sandrine aussi. Il y a beaucoup de pères dans l'histoire, c'est vrai.
Je crois qu'il y a beaucoup de relations de paternité pas claires, quoi. Enfin, ou ratées. Et donc, les uns et les autres ont une histoire assez douloureuse et trouble. Et leur part obscure, là, quelque part, remonte et se révèle. Et ça ne se résout pas, mais se révèle dans ces trucs. Et par contre, ils passent tous les uns après les autres au bistrot de Marinette. C'est le lieu où ils viennent se reconstruire un peu à un moment donné, quoi. Alors ça commence par Clément qui va, il y échoue un matin parce qu'il a froid dans son camping-car.
Il va se réchauffer en buvant un café, puis finalement.
Et puis après, il amènera Floréal pour manger, pour se reconstruire lui aussi après l'accident. Et puis
Sandrine aussi.
Et puis il amènera Sandrine parce que c'est aussi un lieu. Quelque part romanesque.
Enfin, oui, non, oui, oui, tout
même
à fait.
C'est un lieu suranné en même temps.
Oui.
C'est pas pour rien. Il y a aussi une façon de se reconstruire par rapport au passé. Hein,
donc... Tout à fait. Donc, dans un lieu qui est un peu justement suranné.
Voilà. Et puis, voilà, tout le monde y va un peu. Et à la fin, Anna.
Voilà, pour son anniversaire.
Voilà,
hein,
L'anniversaire se fêtera dans ce bistrot. Voilà.
Et avec même. La femme de Clément, hein, Elisabeth,
oui,
et
oui,
Diego,
oui,
le voilà, fameux voilà, associé amant de...
Tout le monde se retrouve.
Tout le monde se retrouve.
Chez
bon,
Marinette,
on va pas dire voilà que tout le monde... Mais il y a quand même, voilà, il y a quelque chose de positif. Hein, je veux dire, c'est...
C'est pas la fin, tout à fait. La fin,
Non, la fin est encore...
Il y a une remise en cause de tout ça, mais bon.
Ben oui, oui, quelque part, c'est ça. C'est que moi, je trouve que Clément, il apprend beaucoup au cours de cette balade de l'escargot.
Alors, je crois que c'est un peu la règle du polar. Le polar, c'est toujours un moment donné. Une initiation à travers une épreuve, quoi.
Oui,
il y a
c'est
suspense,
ça. Oui.
Il y a l'épreuve, il y a l'initiation et un rite de passage quelque part. Et bon, pour lui, c'est c'est l'escargot qui fait sa mue. Alors, c'est une renaissance et
oui,
en même temps, il apprend, comme tous les autres personnages, à sortir un peu de sa coquille.
Tout à fait. Chacun laisse un peu. Bon, c'est toujours douloureux de le faire, mais c'est parfois, souvent, nécessaire. Quelque part.
Je pense
aussi, oui. Et donc, c'est vrai que, voilà, il apprend beaucoup de choses de par les autres et les autres aussi apprennent de par lui aussi. C'est vraiment un échange, même malgré leurs différences d'âge, leurs différences d'histoire personnelle, de milieu social, etc.
Ouais.
Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe entre tous ces personnages.
Ouais, j'ai eu l'impression par rapport à mes deux précédents polars que justement j'avais vraiment le besoin et l'envie d'ouvrir des fenêtres parce que les deux précédents polars les personnages sont enfermés en eux-mêmes d'une manière presque autiste et alors qu'ils auraient pu être proches en termes de conditions ou d'âge. Ils se retrouvaient très isolés, dans des mondes cloisonnés. Et là, j'avais envie que les personnages trouvent les chemins les uns vers les autres, alors qu'ils sont radicalement
opposés,
différents.
Opposés, oui, voilà, tout à fait. Oui.
En âge, en milieux sociaux et en... C'est une petite revanche sur mes personnages précédents.
Oui, mais bon, c'est réussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis bon, voilà, on en ressort bon avec voilà avec ce. On a du mal à quitter ces personnages. Hein.
On me demande souvent la page du livre.
On se dit ah zut, on aurait bien continué encore.
Ouais,
voilà, il faudrait faire la suite.
Ouais.
Et ben pourquoi pas.
C'est une idée. Je suis sur d'autres pistes, mais on ne sait pas.
On ne sait pas.
Bien sûr.
Alors il y a des clins d'œil. Moi, j'ai trouvé bon le camping-car. Bon, quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être dans une caravane, le nomadisme, le voyage, tout ça. Donc le côté camping-car,
l'écriture, ça je le raconte dans mon précédent livre.
Dans Chemin d'encre.
Voilà, qui n'a rien à voir avec un polar.
Non. Mais moi, ça m'a fait penser, comme je vous avais invité pour Chemin d'encre, j'ai pensé à ça.
Oui, bien sûr, c'est un rapport. Hein. Pour moi, l'écriture est liée à une forme de nomadisme, effectivement. Et donc, la caravane ou le camping-car, c'est un lieu, ouvert, c'est une fenêtre.
Tout à fait.
Et un mouvement en même temps, enfin bon, une façon de s'intégrer. Je dis tout le temps, moi, un de mes thèmes d'écriture, que ce soit en poésie ou dans les nouvelles ou même dans les romans, c'est comment parvenir à être là, à descendre dans le paysage, à habiter le monde, à être présent au monde.
Et oui, donc il faut être partout à la fois, quelque part. Quel est le moyen de. Voilà, la caravane, le camping-car, ça s'y prête tout à fait. Il y a des clins d'œil aussi à l'écriture et à la lecture, hein, puisque Clément, a une grande bibliothèque. Il y a des petits clins d'œil quelque part un peu à l'auteur, à vous, Michel Baglin. Donc voilà des petites choses. Et puis bon, une philosophie de vie. Hein, moi, je trouve aussi que ce livre, ça parle de la vie, hein, d'une certaine. Il y a des passages. Là, je peux pas les citer de tête, mais il y a des passages qui sont sur les questions que des fois les mots, c'est plus facile les mots que.
Il y a des difficultés de dialogue entre les personnages dans la mesure où les jeunes du squat sont dans une dérive depuis très longtemps, et donc on n'a pas la même culture, le même vocabulaire que Clément, et donc au début il y a des frictions justement qui sont presque liées à une incompréhension de langage, quoi. Et puis petit à petit il surmonte tout ça, parce que ça n'est pas bien difficile à surmonter non plus. C'est donc effectivement il y a ce jeu entre l'étrangeté, l'autre et le même, quoi.
Oui, quelque part.
Parce qu'en fait, tous ces jeunes apparaissent comme radicalement différents au départ à Floréal. Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est avec eux qu'il se sent le mieux, quoi.
Et c'est auprès d'eux qu'il se réfugie. Et plus proche, quoi, finalement. Voilà, et qu'il se découvre tout à fait.
Il est au plus près de lui-même avec eux.
Donc chacun se remet en question finalement ce livre. Hein, chacun quitte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quitte un peu sa carapace pour aller vers autre chose, hein, dans un autre, apporter un peu de nouvelles choses dans leur vie respective à chacun. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il y a du suspense, hein, faut pas oublier que c'est un livre policier,
un
livre
noir.
Hein, donc il y a du suspense, hein, parce qu'on vous cite pas tout, mais il y a de la tendresse, il y a de la violence, il y a de la vie, il y a plein de choses.
Il y a une course vers la mer aussi, il y a une descente vers la mer.
Oui, tout à fait. Oui,
rêve
la mer
depuis...
aussi. il avait jamais vu la mer.
Non, voilà, il rêve.
Voilà. Donc les premières fois, c'est important. Hein, je veux dire, voilà, première fois où on voit la mer, c'est en général, on en garde quelque chose de fort. Et donc voilà, c'est plein de choses. Donc c'est aux éditions Pascal Gallaudet, c'est La Balade de l'Escargot, Michel Baglin. Et donc forcément, on va vous demander, alors bon, si vous n'écrivez pas la suite, vous avez peut-être quelque chose d'autre
Je travaille sur des textes poétiques actuellement, et puis j'ai également des nouvelles, mais là elles ne sont pas. Il faut que je les assemble en un recueil. C'est des nouvelles qui parlent d'écriture, des auteurs et de leurs personnages, avec des personnages qui prennent leur liberté un peu. Donc enfin voilà, c'est une thématique.
L'idée de la liberté est importante. Dans le livre, hein, on le sent aussi.
Ah,
hein,
je précise par rapport à ça, d'ailleurs, à la liberté, qu'il a été sélectionné pour le prix Intramuros, qui est donc lié au Festival du Polar de Cognac. Et ce prix, il fait partie des 5 ouvrages qui ont été sélectionnés par des détenus des prisons de toute la région
D'accord.
Il y a 90 détenus qui ont lu et choisi les polars qu'ils aimaient. Et donc,
la balade de l'Escargot fait partie de cinq romans
retenus. Et donc, le prix sera décerné en juin.
Ben, vous nous tenez au courant, Michel, je l'annoncerai s'il a été retenu. Enfin, s'il a été.
Déjà heureux, justement, qu'il parle de liberté.
Oui, tout à fait. Et qu'il ait été sélectionné déjà.
Oui, ça veut dire qu'il leur parle quelque part, justement, de liberté.
Merci beaucoup, Michel. Donc, La balade de l'escargot aux éditions Pascal Gallaudet. La semaine prochaine, je recevrai une partie de l'équipe du Marathon des mots, 6e édition, qui se passera du 2 au 6 juin dans notre ville rose. En attendant, bonne semaine à tous et à Adiciats.
Merci, au revoir. Boop-boop-be-doop.